On continue avec un article, là on fait un petit saut dans le temps, donc sur les statistiques 2016-2019. Donc on reprend effectivement, donc vous voyez le graphique continue à s'étendre. Donc pour des raisons de communication évidemment, on a commencé à faire des graphiques qui démarraient en 2011 pour dégager la dynamique. Et bien ça continue, hein, vous voyez 2016, 2017, 2018, 2019, ça augmente même encore plus à partir de 2017. On est sur donc une dizaine d'années à peu près, et donc on est sur une augmentation de 10% par an sur 10 ans. C'est énorme, c'est énorme. Plus du double, hein, on a doublé les statistiques, on passe de 6 000 à 12 000 pour les viols et on passe de 8 000 à 19 000 pour les agressions. Faisons un état des lieux à partir de la base de données donc, du ministère de l'Intérieur. On a retrouvé les données du ministère de l'Intérieur qui avaient disparu du site cartocrime.net. Et c'est vrai que pendant quelques années, on pensait que c'était carrément zappé et qu'il n'existait plus sans que pour autant des raisons aient été données à son arrêt. Les mêmes données qui ne seront plus étudiées par l'ONRDP qui était en charge de les étudier et qui vient d'être supprimée par le gouvernement. Donc cet article est écrit en 2019. Pour l'étude complète des données de 2016, donc c'est ce qu'on vient de voir. Et donc effectivement, ils nous ont ressorti l'index 4001, ils ont remis les chiffres bout à bout, à partir de 2018-2019, on a pu retrouver ces données. Alors, petite digression sur, donc vous vous rappeliez, de l'ONRDP et l'INHESJ. Eh bien voilà, disparition, donc un article d'octobre 2019, disparition de l'INHESJ et de l'ONRDP, ou comment Macron a cassé le thermomètre. Donc le gouvernement vient d'annoncer le 8 octobre 2019 la suppression pure et simple de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, ainsi que de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, par souci de simplification et d'économie d'argent. Ces deux structures étaient chargées d'étudier les actions du ministère de l'Intérieur, et notamment du point de vue statistique. Même si le détail n'était pas vraiment au rendez-vous, les délits et les crimes étaient agrégés dans des index, les échelles étaient départementales, rien que sur les enfants disparus, rien sur les mineurs enterrés sous X, le contexte de prostitution, les réseaux, mais au moins les chiffres étaient publics. Feu le site Cartocrime. Et ils nous ont permis jusqu'en mai 2016, où pour des raisons mystérieuses les données n'ont plus été actualisées, de produire plusieurs analyses inédites de la pédocriminalité en France. C'est tout ce dont je viens de vous parler. On peut juste vous signaler un autre article qui ne sera pas dans ce podcast, qui étudiait la saisonnalité de la pédocriminalité pour savoir s'il y avait plus de viols, à quel mois de l'année. Donc effectivement, l'été, il y avait moins de plaintes. On peut se douter quand on est en vacances, on va moins facilement au commissariat que quand on connaît les gendarmes à côté. Et puis il y avait des pics, un pic en mars, et il y avait notamment une étude assez intéressante entre les fêtes sataniques et la saisonnalité. Bon, c'était une hypothèse, c'était ce que c'était, je vous laisse la regarder. De même, c'est cette structure qui réalisait des études de victimation indépendantes et de grande ampleur, donc qui faisait les enquêtes cadre de vie et sécurité. On demande aux gens pris au hasard ce qu'ils ont subi comme crime et délit au cours de leur vie, ce qui est crucial pour savoir exactement de manière réelle, avec un échantillonnage, combien d'enfants à minima sont victimes de pédocriminalité dans notre pays, puisque c'est toujours à minima, puisqu'il y a toujours des gens qui ne vont pas dire ce qu'ils ont subi dans l'enquête, même si elle est anonyme, etc. Aujourd'hui, le gouvernement fait le choix de casser le thermomètre plutôt que de s'attaquer au problème. Au moins comme ça, il est impossible de les quantifier. Je cite. Avec cette décision, l'ONRDP et l'enquête de victimation disparaissent donc dans leur forme actuelle, marquant ainsi un retour en arrière de près de 15 ans, à une époque où le ministère de l'Intérieur était le seul à communiquer et où il va le redevenir, maître de sa communication et de ses chiffres et du regard que la population peut porter sur sa propre action. L'ex-directeur de l'INHESJ, Christophe Soulez, se fend dans le Figaro du 11 octobre 2019 d'une tribune amère et pédagogique sur le constat. Alors du coup, je vais vous la lire parce qu'elle est quand même pas mal. Donc là, elle n'est pas très longue. Donc un article du Figaro, on est bien d'accord, hein. Mort de l'INHESJ, la fin d'un regard indépendant sur le ministère de l'Intérieur. Donc l'INHESJ et l'ONRDP vont être supprimés par le Premier ministre. Or, ces organismes sont indispensables pour évaluer en toute liberté l'efficacité de la lutte contre la délinquance, juge Christophe Soulez. L'école militaire qui abrite l'INHESJ... Donc, Soulez est le chef de l'ONRDP et co-auteur du livre La criminologie pour les nuls en 2012. Donc, il faisait de la vulgarisation quand même. Le Premier ministre a décidé de supprimer donc l'INHESJ créé par Pierre Joxe il y a 30 ans et par voie de conséquence l'ONRDP qui en faisait partie, mis en place il y a 15 ans par Nicolas Sarkozy. Cette décision a de quoi étonner, détonner et consterner. Le Figaro, hein. Le caractère interministériel permettait de dépasser les clivages, les rivalités de chapelle et les logiques de corps. En effet, l'État se prive ainsi d'un des rares espaces d'échange, de dialogue et de confrontation d'idées entre magistrats, policiers, gendarmes, professionnels du secteur privé de la sécurité, alors même que la nécessité de développer le continuum public-privé est régulièrement soulignée. Sans compter que le développement de nouvelles approches sur le sens et les missions de la police et de la gendarmerie n'a jamais été aussi indispensable. Bon, les mecs sont en train de perdre leur boulot, mais quand même. Le caractère interministériel et son positionnement formaient l'enceinte adaptée de production du savoir à l'attention des décideurs publics dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques de sécurité et de justice. Et parenthèse, et effectivement, vous verrez tout à l'heure que entre les statistiques de l'intérieur et celles de la justice, c'est le bordel. Ils sont pas les mêmes manières de faire, manières de noter. C'est très difficile d'arriver à marier les deux pour se rendre compte ce qui se passe à l'étape 1 et à l'étape 2. Vous voyez? Donc effectivement, c'était pas mal. Et eux faisaient le boulot pour essayer de dire quelque chose de cohérent là-dessus. Ils permettaient de dépasser les clivages, les rivalités, donc ça j'ai déjà dit. Certes, la recherche avait depuis longtemps été sacrifiée sur l'autel des contraintes budgétaires, donc ils étaient déjà avec pas beaucoup de moyens, mais justement, n'aurait-il pas mieux valu la renforcer plutôt que la supprimer? Quant à l'ONRDP, créée comme une structure indépendante du ministère de l'Intérieur, ayant pour mission de produire des analyses sur la criminalité, avait en particulier de sortir des polémiques sur les chiffres et les évolutions de la délinquance. Il s'est affirmé comme un organisme de référence, éclairant le débat public sur ces questions et produisant de la connaissance sur de nombreux phénomènes criminels, à l'instar des violences faites aux femmes. La conjoncture aura dû inciter l'État à rechercher de l'intelligence et des compétences au-delà de la sphère purement étatique. Il a surtout développé des relations de confiance avec des services opérationnels de la police et de la gendarmerie, ainsi qu'avec des juridictions lui permettant de travailler sur des données qui n'étaient que peu ou pas exploitées. Donc effectivement, on pense tout de suite aux enfants disparus, aux enterrés sous X, etc., et qui pourtant, même avec ça, ne sortaient pas. Mais au moins, il y avait un peu quelque chose dans ce sens-là. Avec l'INSEE, il a conçu l'enquête de victimation, quête de vie et sécurité, véritable baromètre de l'intélinquance qui plaçait la France parmi les pays en pointe en matière de connaissance de l'insécurité. On en reparlera tout à l'heure. En 2021, fin 2020, ils l'ont fait sauter. Même cette quête de vie et sécurité, qui, malgré la mort de l'ONRDP, avait été un peu maintenue. Avec cette décision, donc, l'enquête de victimation disparaît donc dans leur forme actuelle. Marquant ainsi un retour en arrière de 15 ans à une époque où le ministère de l'Intérieur, donc ça je vous l'ai déjà dit, cela s'avère d'autant plus préjudiciable dans une période où l'opinion publique, y compris les pouvoirs publics, exige d'être informée le plus précisément possible de l'état de la criminalité et de l'évolution des menaces, et ce dans un contexte de transparence accrue. Effectivement, l'insécurité à toutes les sauces dans les médias, à un moment donné, il faut savoir de quoi on parle, mais ça peut-être ça les arrange pas. Chaque ministère peut ainsi recréer son propre observatoire et centre de recherche pour liquider définitivement les synergies, la transversalité et les apports extérieurs qui étaient rendus possibles grâce à ces deux structures. Alors que dans ce contexte de rationalisation, le Premier ministre aurait dû fédérer, mobiliser et encourager les regroupements, il s'en remet au ministère et donc aux logiques internes des administrations et de la défense de leurs prés carrés. La conjoncture aurait dû inciter l'État à s'ouvrir sur l'extérieur et à rechercher de l'intelligence et des compétences, il a préféré se refermer sur lui-même. Donc c'est dit assez gentiment, mais effectivement le résultat c'est ça, c'est qu'on casse le thermomètre. Reprenons donc notre article sur les données 2016-2019. Donc je vous répète pas des choses que j'ai déjà dit, l'index 4001, les viols, l'index 47-49, les viols sur mineurs, les agressions, 8% de taux de plainte. Et puis je vous renvoie donc à l'article, on va le voir après, sur grâce au dysfonctionnement entre guillemets de notre cher système judiciaire, ces plaintes, donc on va étudier là, ne vont que pour la grande majorité pas déboucher sur des condamnations d'emprisonnement physique réel des prédateurs. Donc on en reparlera tout à l'heure. On est sur un emprisonnement physique des prédateurs d'abus sexuels sur mineurs aux alentours de 0,2% des prédateurs. D'accord? En France, vous commettez un abus sexuel sur mineur, vous avez donc 90%, 92% d'impunité, 6% qui font une plainte sans suite, enfin un sans suite qui donne pas lieu à une condamnation, 2% de condamnations, et sur ces condamnations, on a 0,2% de gens qui vont physiquement en prison. Voilà. Qui donc ne vont pas prendre ni du sursis, ni des peines aménagées, ni du blabla. Donc c'est-à-dire qu'il faut prendre au moins 2 ans ferme pour aller en prison physiquement. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pour 2016-2019, la pédocriminalité est en constante augmentation et cela s'accélère avec un total de 12 300 viols sur mineurs et 18 000 agressions sexuelles sur mineurs en France, plus 10% et plus 19% par rapport à 2018. Elle a plus que doublé depuis 2011. Les chiffres sont effarants, plus 10% en moyenne par an depuis 2011 et plus 15% sur ces 3 dernières années. Effectivement, ça, on voit que la courbe, l'accélération, enfin l'augmentation de la courbe s'accélère encore plus entre 2017, 2018, 2019. Donc nous pensons que la banalisation de la pédopornographie gratuite sur Internet, avant c'était cher et sous le manteau, avec des cassettes VHS, y est pour beaucoup. Ainsi que la possibilité d'y aborder des mineurs via les réseaux sociaux et les chats. Chose qu'on dénonce dans d'autres articles. Vous tapez chat dans l'outil de recherche du site, vous trouverez des vidéos qu'on avait fait, des articles sur le sujet. Ou encore la légalité des forums pédos qui ont pignon sur rue depuis des décennies. Je vous renvoie un article sur le forum La Garçonnière, sans que l'État ne retrouve rien à y redire. Puisque, en fait, les gens discutent de comment violer des enfants, mais il n'y a pas d'image, ils ne font rien, donc en fait, ils passent pas à l'acte, donc on ne sait pas. Je ne sais pas si vous voyez l'hypocrisie. Si vous faisiez un forum pour discuter entre vous comment assassiner les gens, vous doutez bien que les policiers vous tomberaient dessus. Hein? Mais là, non. Bref. Et même les sites de rencontres, entre guillemets, libertins ou dédiés sur le darknet qui permettent aussi de mettre en contact des couples pédocriminels pour s'échanger les prestations sexuelles de leurs enfants. On peut ajouter à ça, avec le recul aujourd'hui, les applications de direct, les WhatsApp, etc., les Skype, où on va payer des gens, oui, on va s'échanger des actes à distance, sans prendre de risques, entre guillemets, entre familles, incestueuses. Voilà. On peut aussi visualiser donc les départements les plus touchés sur 2016-2019, bien que certaines cultures régionales d'omerta ou de corruption systémique soient à prendre en compte, PACA, Corse notamment, où on voit qu'il y a très peu de choses, alors qu'on sait qu'il y en a beaucoup. Donc la carte des viols sur mineurs pour 100 000 habitants, et on retrouve un peu la même chose que ce qu'on avait effectivement, cette diagonale est-ouest, nord-ouest-sud-est, qui passe par Paris et toute cette région en allant vers la Belgique qui est particulièrement impactée, avec oui, un ajout là au fil du temps de la façade ouest et effectivement également tous les départements entre la Méditerranée et l'Ariège. La Guyane qui a encore augmenté, donc 221 viols sur mineurs pour 100 000 habitants. Je crois qu'on était un peu en dessous, mais bon, on est toujours dans les mêmes eaux. La Réunion, la Guadeloupe, aux alentours de 100. Voilà. Donc, des confirmations. Nous pouvons de nouveau confirmer les résultats qui vont à l'encontre des poncifs habituels, largement utilisés dans les médias ou même au sein des chambres parlementaires. Parce que là, du coup, on avait eu un peu plus de. Il y avait un rapport un peu plus conséquent, notamment, et donc on avait eu des chiffres un peu plus détaillés. Et donc on a pu en tirer des choses au-delà des chiffres bruts. Donc, nous confirmons des choses qui vont à l'encontre de ce qui est dit habituellement dans la télé. Au maximum, seulement 28% des actes sont commis par des mineurs en 2018. Contrairement aux 50% souvent évoqués qui réduiraient la pédocriminalité à un problème de touche-pipi à l'école ou de tournante dans les toilettes du collège ou encore d'inceste fraternel chez les cassos. Hein, on veut souvent nous faire croire ça. Ce n'est pas vrai, c'est seulement 28% des actes. Mais effectivement, c'est bien 50% des condamnés, ce qui n'est pas du tout la même chose. D'accord? C'est pas parce qu'on a 28% des plaintes où l'accusé est un mineur. Alors un mineur de 18 ans d'ailleurs, un mineur de 18 ans et non pas un mineur de 15 ans. Souvent on fait pas trop le distinguo, mais quand on dit mineur en tant que victime, c'est mineur de 15 ans. Par contre, quand on dit mineur en tant qu'accusé, c'est mineur de 18 ans. Étrange, hein? Et puis, donc, ça peut faire 28% des plaintes, mais si c'est 50% des condamnés, mais ça ne veut pas dire que c'est 50% des actes qui sont commis par des mineurs. Ceci ne prouve qu'une seule chose, les prédateurs mineurs savent moins bien se défendre en justice que les majeurs. Effectivement, vous avez 28% des plaintes qui concernent un mineur, donc enfin en gros 30%, 70% sur les majeurs, mais au niveau des condamnations, eh ben ça revient à 50-50. Ça veut dire qu'il y a toute une partie des majeurs qui ont réussi à passer à l'AS. Voilà, alors que les mineurs sont condamnés dans des proportions bien plus grandes. Ce qui n'a rien d'étonnant, mais ne prouve rien sur la réalité de la pédocriminalité. On peut aussi penser qu'un mineur se fera plus facilement attraper quant à l'acte commis et à son éventuelle préparation, ou à l'aveu. On peut aussi se demander comment les 8% d'agresseurs de moins de 13 ans ont l'idée ou la connaissance, donc il y a quand même 8% des agresseurs qui ont moins de 13 ans, ont la connaissance pour produire un acte sexuel sur leurs camarades. Et là, on ne parle pas de touche-pipi. D'accord? Si on va en justice, c'est pas parce que le petit de CE1 a touché la ZZ de la petite de CE2. Non, non. Là, on parle de choses plus graves. Donc comment ces enfants de moins de 13 ans ont eu connaissance de comment ça se faisait? C'est une question qu'on peut se poser. Et nous, on a vu des affaires où les gens ne se posent pas la question, ni le journaliste, ni personne. Hein? Si j'ai un gamin de 6 ans qui essaye de faire des trucs complètement sexués avec une fille de 4 ans, c'est qu'à un moment donné, soit il a vu des adultes le faire, soit il a vu des vidéos pornographiques, etc. Donc c'est qu'il y a un gros problème au niveau des adultes qui l'entourent. Je trouve ça incroyable qu'on retrouve cet enfant devant un tribunal, évidemment. Nous pensons que pour une grande partie, ces enfants donc sont soit eux-mêmes abusés et qui reproduisent ce qu'ils subissent. Bien souvent, ces, entre guillemets, sales histoires de cours d'école n'éveillent bizarrement aucun soupçon chez les parents, ni chez les professionnels enseignants, ni chez les... Enfin, c'est incroyable. On se fout de la gueule du monde. Donc voyez le tableau là. Nous préconisons dans ce genre de cas une perquisition rapide au domicile parental des équipements informatiques et un recueil de la parole de l'enfant agresseur par la procédure Mélanie. Et quand je dis rapide, c'est le jour même ou le lendemain. Hein, c'est pas, enfin non, c'est même le jour même. C'est on redonne pas l'enfant aux parents. Et on voit ce qu'il y a sur l'ordi. C'est quand même pas trop traumatisant. Hein. Moi, ok, je veux bien, mais ils viennent chez vous, ils vous prennent votre ordi, ils regardent ce qu'il y a dedans. S'il y a rien, ok, c'est bon. Et s'il y a du pédoporno, monsieur, on va discuter. Voilà. Donc on voit ce tableau où effectivement on a une répartition par sexe, homme ou femme, des accusés, et puis une répartition par classe d'âge. Donc c'est assez intéressant. Donc ça c'était la première idée reçue qu'il fallait combattre. Deuxième idée reçue qu'on a pu combattre, sur des statistiques de 2016, seulement 30% des abus sexuels sur mineurs sont réalisés dans le cadre intrafamilial. Donc ce qu'on appelle communément de l'inceste, ou en tout cas de l'abus sexuel domestique, c'est-à-dire qui sont faits par les membres de la famille, ou par des gens très très proches qui sont tout le temps au domicile familial. Donc l'enfant est abusé chez lui, dans sa maison où il vit. Contrairement aux 50%, voire 80% qui sont régulièrement assénés un peu partout, réduisant la pédocriminalité à un problème d'inceste de pauvres et donc à une fatalité à laquelle on ne peut pas faire grand-chose, ou alors mettre un flic dans chaque maison, ma bonne dame, vous comprenez, c'est pas possible. Oui, sauf que ça, c'est pas vrai. Sauf que ça, c'est pas vrai. Voyez ici dans le tableau, pour les viols sur mineurs, c'est 30%, et pour les agressions sexuelles sur mineurs, c'est 30%. Donc ça veut bien dire qu'il y a 70% des abus sexuels sur mineurs qui sont commis en dehors de la maison familiale. D'accord? Et si vraiment on veut aller, moi j'avais là de mémoire sur le cercle familial élargi, amis, proches, famille, on n'est qu'à 50%. D'accord? Donc il faut arrêter. Il faut arrêter avec ce truc. D'ailleurs, s'il fallait reprocher quelque chose à la Ciivise et au focus qui est mis par les médias là, sur l'année 2020-2021 sur les abus sexuels sur mineurs, c'est qu'on ne parle que d'inceste. Je sais pas si vous avez remarqué. La commission, elle est sur l'inceste. On parle Springora, machin, comment il s'appelle, Duhamel et tout, mais c'est que de l'inceste, inceste, 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 le jour, le matin, le soir. Mais attendez, c'est 30%. Ou au max 50. Mais attendez, les 50 autres pourcents, on n'en parle pas, ça n'existe plus. On est clairement en train de cacher la forêt, pas avec un petit arbre, mais on est en train de cacher la forêt des abus sexuels avec l'arbre de l'inceste. Sous prétexte en disant, voyez, on ne peut pas faire grand-chose, comment voulez-vous que la police aille voir dans les foyers? Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est encore en train d'essayer de vous avoir. Allez, discussion sur ces données. Cette explosion évidente tente d'être éludée par un discours classique, donc c'est la parole qui se libère et non les actes qui augmentent. Donc je vous renvoie à ce que je vous ai dit juste avant. mais on peut néanmoins se pencher sur la mise en garde introductive plutôt révélatrice d'Interstat qu'Interstat, donc c'était le nom du service des statistiques du ministère de l'Intérieur, avec des petits fascicules, et donc en l'occurrence, ils avaient fait un dossier sur le sujet. Je vous le mets d'ailleurs en lien, voilà, je ne sais plus quel numéro c'était. Donc, petite introduction révélatrice qui se sent obligée de mettre avant les données. Écoutez bien. Les séries qui composent l'indicateur des violences sexuelles enregistrées ont été affectées par le changement des systèmes d'information de la police et de la gendarmerie nationale entre 2012 et 2015. Sauf que, comme vu sur le premier graphique, la courbe est régulière dans ce laps de temps. Donc, a priori, il n'y a pas trop d'effet, en tout cas sur les deux index qui nous intéressent. La dynamique de la courbe, elle est la même à peu près sur 2011-2019. Et il n'y a pas particulièrement de changement entre 2012 et 2015. Et eux ne disent pas qu'ils ont restandardisé les données ou fait des corrections, des ajustements. Ils n'ont rien dit. Mais ils sous-entendent, enfin ils sous-entendent même pas, ils le disent explicitement, je poursuis. En effet, une hausse du nombre enregistré des violences sexuelles peut traduire une révélation croissante des faits subis par les victimes et parfois des faits anciens aux forces de sécurité. Nous y voilà. On notera le peut traduire qui ne veut rien dire, mais suggère sans preuve. Pour des statisticiens, c'est quand même formidable. Il continue. Il est indéniable que les données administratives, dans les années récentes, reflètent un plus grand recours à la plainte pour ces atteintes, du fait de la comparaison avec les données d'enquête. Donc on relèvera là le indéniable, sans aucune preuve et sans aucun élément, dont le ton sonne étrangement dans ce genre de document très aseptisé, et qui est quand même un document à la base de mathématiques. Hein. Les statistiques, c'est pas oui, peut-être, non, on sait très bien, et on quantifie, il n'y a aucun souci, c'est très précis. Donc on est supposé comprendre à demi-mot que le taux de plainte aura augmenté et non la pédocriminalité. Sauf que les enquêtes avec lesquelles sont faites donc les comparaisons sont en fait uniquement les enquêtes CVS dont je vous ai déjà parlé. Et, ou encore, par exemple, il y avait une enquête ponctuelle qui avait été faite en 2015 et qui n'a plus été actualisée depuis, l'enquête Virage, et qui évoquait les mêmes taux de plainte. Un premier problème est que cette mise en garde est formulée pour toutes les violences sexuelles, qu'elles soient commises sur les victimes majeures ou mineures. Bon. Et en effet, les données disponibles pour les violences sexuelles hors ménage ne différencient pas victimes majeures et victimes mineures. Ce taux, même chez les majeurs uniquement, n'a pas vraiment évolué, le taux de plainte. De plus, les reformulations des questions des enquêtes cadre de vie et sécurité, qui sont mises en question par cette introduction d'Interstat, introduisent, ils le disent, un biais important de 10% entre 2017 et 2018. Donc ils ont quantifié que le changement de question, sauf que la lecture de leurs propres documents, en détail, page 229-231, et effectivement il faut se taper à lire des centaines de pages, semble même indiquer que le biais va dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il a tendance, le biais, à minorer de 10% le nombre de violences sexuelles. Donc en fait, on voit quelque chose qui augmente énormément, ils nous font croire que leur changement de technique a plutôt fait augmenter les choses, alors que eux-mêmes, de manière donc totalement malhonnête, si on regarde dans les détails, disent que non, le changement de question a plutôt fait baisser le nombre de violences sexuelles révélées dans les enquêtes de 10%. Donc l'augmentation que vous voyez, vous pouvez remettre 10% de plus. Je sais pas si vous voyez le niveau de malhonnêteté. Désolé, mais nous ne voyons vraiment en quoi cette hypothèse serait indéniable déjà, et on peut supposer que l'auteur de cette mise en garde introductive n'est certainement pas l'auteur de l'enquête évoquée, et certainement pas le chercheur en statistique ou le sociologue qui a revu les questions. On peut quand même se poser des questions, nous, en tant que peuple, sur un changement de formulation des questions qui fait baisser le nombre de 10%. Hein ? Puis d'une année sur l'autre. À la limite, il aurait fallu faire un tuilage, quoi. Mais bon, peu importe. Continuons, plus loin encore, nous lisons. Violence sexuelle, index 46 à 49. Les hausses des chiffres relatifs aux viols, harcèlement et autres agressions sexuelles apparaissent très élevées et ne reflétant pas la réalité du phénomène, sans qu'il soit à ce jour possible d'en proposer la correction. Non mais c'est incroyable. On est dans la croyance, on est dans la religion. Enfin non, on est dans la propagande. Tout est dit de manière explicite, on est dans la propagande sans fondement. En gros, les chiffres montent trop pour être vrais, mais on ne sait pas pourquoi, mais on vous demande de le croire. Non mais c'est incroyable. C'est quand même magnifique. Allez, on passe rapidement parce que ça fait déjà presque une heure. Voilà, donc... La pédocriminalité, donc là, c'est le dernier article qui est sorti il y a quelques jours sur le site avec les chiffres de 2021. Et donc, la pédocriminalité explose encore et toujours en France en 2021, tenez-vous bien, plus 40% en un an. C'est fou. Alors, vous dites peut-être pourquoi on passe de 2019 à 2021. Ben, vous allez voir, c'est parce que les chiffres 2020, il y a eu un petit souci sur la question. Alors, le ministère de l'Intérieur a fourni les chiffres de la pédocriminalité pour 2021. Donc, vous voyez le graphique. Alors là, j'ai tout remis par honnêteté. Donc, vous voyez que là, maintenant, on est à partir. J'ai remis pour 2000. On voit bien que ça stagne jusqu'à 2011, puis ça augmente, puis ça. Enfin, on est quasiment sur une courbe exponentielle, là. Avec effectivement un petit décrochement en 2020. Donc, allons-y pour essayer d'expliquer ça et de comprendre pourquoi on a une telle courbe. Donc, on passe quand même. Si on cumule viol et agression sexuelle, de 15 000 en l'an 2000, on était toujours à 15 000 en 2011, à quasiment 40 000 en 2021. Ok? Le constat est terrible. Les viols sur mineurs de 15 ans, comme les agressions sexuelles, sont en augmentation de 40% en 2021 par rapport à 2020. Plus de 18 000 viols et 25 000 agressions sexuelles. C'est du jamais vu. Donc les données, je ne vais pas répéter ce que je vous ai déjà dit sur le taux de plainte, sur les indices 4001, etc. L'article sur la justice, on verra après. Passons direct au résultat. La pédocriminalité est en constante augmentation et cela s'accélère de manière vertigineuse. En effet, on constate un total de 18 268 viols sur mineurs et 25 746 agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans en 2021 en France, respectivement plus 40, plus 36% et plus 40% par rapport à 2020. Elle a plus que triplé depuis 2011, fois 3,1 pour les viols comme pour les agressions sexuelles. Le taux annuel d'augmentation des viols sont effarants. On est à plus 12% par an en moyenne depuis 2011 et à plus 20% par an sur ces 4 dernières années. Je ne sais pas si vous vous rappelez avant, je vous disais que ça augmentait énormément. 10% par an, c'est des augmentations de dingue. Mais sur les 4 dernières années, c'est 20% par an. En prenant en compte le taux de plainte de 8%, donc effectivement, il y a eu d'autres études qui sont sorties entre-temps. Nous, aujourd'hui, on va prendre 8% parce que c'est ce qui sort de manière consistante dans les études. On attend la prochaine étude de mémoire traumatique et victimologie qui est faite par l'Ipsos. On devrait encore qu'on retrouve ça. On l'attend avec hâte. Puisqu'on n'a plus les chiffres du ministère, vous allez voir pourquoi. Donc en prenant en compte un taux de plainte de 8%, cela fait 550 000 enfants de moins de 15 ans violés ou agressés sexuellement en 2001, en 2021 en France. Et non pas 160 000, 550 000. D'accord? Moi, je veux bien qu'on mégote sur le taux de plainte. On est toujours à plus du double de ce qui est dit dans les médias, avec Civise et le juge Durand, qu'on apprécie par ailleurs, mais pour autant, ces chiffres-là, c'est petit. Chiffres que le gouvernement ou les médias avancent prudemment, mais savent sous-estimer. On ne les prend pas pour des idiots, ils savent très bien. Alors, l'éternel serpent de mer, la libération de la parole. On entend sans cesse dire que la parole qui se libère et non les actes qui augmentent, mais à notre connaissance, aucune statistique ne vient corroborer ce discours médiatique, bien pratique pour noyer le poisson, ou plutôt la baleine. Cela pourrait par exemple être visible lors des enquêtes annuelles de victimisation, cadre de vie et sécurité, donc vous commencez maintenant à bien connaître, les CVS réalisées par le ministère de l'Intérieur. Sauf que, lisons ce qu'ils nous disent. En avril 2018, donc sur le site hein, du service statistique du ministère de l'Intérieur, quand on va voir la page CVS, en avril 2018, l'INSEE a fait part à ses partenaires de ses contraintes budgétaires croissantes en termes de programmation d'enquête et de moyens en enquêteurs. Ces contraintes conduiront l'INSEE à partir de 2022 à ne plus réaliser l'enquête dans son format actuel, rythme annuel, mode de collecte. Avec l'appui de l'INSEE, le SSMSI, donc le service des statistiques du ministère de l'Intérieur, pilote la réflexion sur l'évolution à horizon 2022 du dispositif global de l'enquête CVS, qui devra en particulier répondre à la demande sociale exprimée lors des rencontres organisées par le Conseil national de l'information statistique, le CNIS, en 2015 et 2016. Dans ce contexte, des expérimentations sont en cours ou prévues, aussi bien à l'INSEE qu'au SSMSI. En particulier, ce dernier conduira l'enquête Genèse en 2021. Donc, je vous traduis. En résumé, il n'y aura pas de statistiques comparables à l'enquête CVS, ni en 2020, donc la dernière datée de 2019, ni en 2020, ni en 2021, et peut-être même pas en 2022. On attend les résultats annoncés pour mars, mais a priori, ils ont déjà dit que de toute façon, ils allaient changer la méthodologie, et blablabli, et blablablou. Et quand le nouveau système d'enquête, actuellement en expérimentation, entre guillemets, sera en place, ils pourront encore nous faire le même couplet qu'ils nous avaient sorti dans l'article d'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, de « Ah non, mais c'est pas comparable avec avant, hein !» Ah ben c'est super, ça c'est génial de faire des statistiques en 2022, et puis en fait c'est un chiffre, c'est un nouveau point zéro, c'est pas du tout comparable avec les 30 années d'avant. On fout à la poubelle 30 années de statistiques, et on dit non mais maintenant c'est différent, ne regardez plus le passé. Mais de qui on se fout? De qui on se fout? Nos impôts, c'est à ça que ça sert? À se foutre de notre gueule? Et en effet, il aurait fallu, pour arriver à faire un tuilage, moi je veux bien entendre qu'il faut changer les questions de temps en temps, ou que ça va pas, ou ci ou ça, mais il aurait fallu au moins sur une année faire les deux systèmes d'enquête en parallèle. Alors effectivement, ça demande un peu plus d'argent, mais si par la suite tu en gagnes, hein, on peut quand même justifier ça, pour pouvoir les comparer entre eux et faire un tuilage, et en fait même sur quelques années, sur plusieurs années en réalité. Et comme ça, tu compares la manière de faire avant, la manière de faire après, et éventuellement, si t'es honnête et que tu triches pas trop, tu fais un petit ajustement, et on peut quand même comparer les données avec les années 2000. Mais peut-être que le but... On voit le mal partout, hein. Mais peut-être que le but de cette, entre guillemets, réflexion, c'est justement de biaiser à la baisse les chiffres, comme on l'a vu dans le changement de question qui était arrivé dans l'article d'avant. Car ils font peur, ces chiffres, et à juste titre. Ils font peur au peuple, dont émanent des demandes sociales de plus en plus pressantes. Eh ben oui, il y a une pression sociale, il y a une pression médiatique qui commence à s'exercer sur ces gouvernements qui ne font rien pour adresser cet énorme problème. Ce fléau social qu'est la pédocriminalité en France. Cela est habituel, donc, pour le pouvoir d'achat, je pense que vous connaissez ça, avec le panier de la ménagère, par exemple, pour masquer l'inflation, pour dire « Non, non, vous avez le même pouvoir d'achat d'avant, parce que les télés sont moins chères. » Super, moi je mange pas des télés, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, l'inflation galopante. On a la même chose avec les fameuses catégories de chômeurs, je pense que vous avez déjà entendu parler, où on va vous dire « Ah, le chômage baisse !» Bah oui, mais on les a mis dans les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on compte plus. Voilà, tous les gouvernements font que ça. Ça serait pas la première fois, et ça serait bien étonnant qu'ils ne veuillent pas l'appliquer à ces statistiques-là. Et on rappelle effectivement que pourquoi il n'y a plus l'enquête CVS ? Parce qu'ils ont supprimé, donc en 2019, l'INHESJ, comme je vous l'ai dit, et l'ONRDP. Donc, il y a un trou dans les statistiques. Enfin, en tout cas, il y a un trou dans les statistiques de victimation sur 2020-2021. Ok. Rattrapage du confinement de début 2020. Alors, du coup, oui, au vu de la courbe, reprenons le graphique que je vous ai montré en premier, il y a une très faible augmentation des abus sexuels sur mineurs en 2020. Donc on pouvait, et on avait fait à l'époque, dans l'article, raisonnablement faire l'hypothèse qu'à cause du Covid et du confinement, il y avait un impact très fort, négatif, sur le dépôt de plainte. Si vous êtes confiné chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir, c'est encore plus dur d'aller au commissariat pour porter plainte quand on est un mineur, vous voyez, c'est déjà compliqué. Mais on peut se dire que peut-être il y a eu un problème à ce niveau-là. Et qu'il est possible qu'il y ait eu un rattrapage sur 2021 des plaintes non déposées en 2020. C'est-à-dire quand même 40% en un an, alors qu'il y a eu une toute petite augmentation en 2020, on peut se dire bah, peut-être ça s'est rattrapé d'une année sur l'autre. En imaginant des scénarios un peu bizarres, alors que le confinement était en début d'année, que à cause du confinement, et puis finalement on porte pas plainte avant l'été, on en parle plus tard, et puis pas non plus à l'automne, et puis finalement on en parle qu'en 2021. Mouais. Bon, déjà sur le papier, c'était un peu bizarre. Mais imaginons, cela pourrait donc expliquer en partie cette augmentation extrêmement brutale qu'on constate en 2021. Par une étude rapide de la saisonnalité, puisqu'on a les données par mois des abus sexuels sur mineurs, on peut se rendre compte des profils effectivement très perturbés de l'année 2020. Donc vous regardez ce graphique où vous avez année par année le nombre de plaintes qui est déposé pour l'ensemble, pour les viols, et en dessous pour les agressions, mois par mois. Et donc vous voyez, la moyenne 2000-2019 le monte, mais vous voyez que c'est en gros un peu toujours la même chose. On a une baisse l'été, on a un pic en mars, on a un pic en novembre, et année après année, enfin en octobre ou en novembre, vous voyez, c'est un peu le même profil. Cela année après année depuis 2000. Et en 2020, pas du tout. En 2020, on a une baisse donc de la moitié, Donc, au lieu de, vous voyez, on a une baisse énorme des plaintes sur les mois du confinement, donc mars, avril, mai. Et on a une augmentation, peut-être il y a eu un petit rattrapage sur juin-juillet, une baisse en août comme d'habitude, juillet-août, il y a toujours une petite baisse. Et puis après, finalement, bah non, ça, on revoit un profil général qui recolle à ce qu'on voit d'habitude. D'accord? Donc, il ne semble. Donc, ça pour 2020. 2021, alors il y a eu des confinements, mais c'était quand même pas tout à fait les mêmes conditions. On n'a pas arrêté de travailler, on n'est pas resté chez soi, on n'avait pas l'obligation de ne pas circuler, etc. Donc, on a un profil qui est quand même très bizarre, avec un gros pic en mars, un gros pic en juin, qui sont des choses inhabituelles, la baisse estivale habituelle, et puis à l'automne. Donc, on voit bien qu'il y a des perturbations en 2020 et en 2021, mais il y a quand même surtout une énorme perturbation au niveau du confinement de 2020. Mais vous voyez qu'on ne constate pas particulièrement de rattrapage du manque de plaintes du printemps 2020 sur l'été ou l'automne 2020. On ne constate pas particulièrement un profil au niveau 2021 qui serait globalement complètement différent de ce qu'on voit d'habitude. Vous voyez? Et donc, on en tire de ces graphiques qui ne semblent pas pour autant que ces plaintes non déposées pendant le printemps 2020 aient été particulièrement reportées sur les mois suivants ou sur 2021. Donc les données ne semblent pas confirmer cette hypothèse de rattrapage. Voilà, ces données graphiques sont extrêmement claires. Cette hypothèse sera définitivement confirmée ou infirmée lorsque les données de 2022, si d'ici là il n'y a pas de nouveaux épisodes perturbateurs dus à des décisions gouvernementales liées au contexte Covid, mais effectivement on peut s'attendre, si cette hypothèse est confirmée, qu'en 2022, ben, on ait tout simplement une prolongation de la courbe. Si vous faites une courbe de tendance, c'est-à-dire une ligne comme ça qui part de 2011, qui fait une sorte d'exponentielle et qui passe par 2016, 2018, 2019, et puis vous voyez qu'il y a vraiment un. Et puis 2021, et finalement 2020 est une anomalie qui est en dessous et qui n'a pas été rattrapée. Les enfants qui n'ont pas porté plainte, enfin les cas d'abus sexuels sur mineurs qui n'ont pas été rapportés par une plainte au printemps 2020 ne l'ont jamais été en fait. Voilà, il y a un trou. Comme pour plein d'autres choses, le confinement a fait plein de victimes collatérales indirectes, dont ces enfants. Voilà. Et donc si en 2022 on a finalement une prolongation de cette courbe dont la seule anomalie est 2020, eh ben on pourra dire qu'effectivement, confirmer définitivement ce que je viens de dire, c'est que ces plaintes ce sont tout simplement n'ont pas été faites et ne le seront jamais. Conclusion, alors on peut quand même estimer le delta, hein. On est sur un delta de à peu près, là graphiquement, on est sur un delta de quasiment 5000 plaintes, hein. C'est pas rien. C'est pas rien. Conclusion, Wanted Pedo se réjouit de la soi-disant prise de conscience médiatique et institutionnelle de ce phénomène tragique au travers du hashtag MeTooInceste, de la commission Civise et de, on va dire, le réveil médiatique d'une partie des médias, certainement sous l'impulsion du lobby féministe, et on s'en réjouit. Maintenant, il faut passer aux actes. Et il faut se donner des moyens humains et financiers de punir sévèrement les dizaines de milliers de pédocriminels qui sévissent en France et détruisent les vies de nos enfants innocents. Ok? On va arrêter de nous faire la messe avec les histoires de numéros verts, nos pauvres amis pédophiles sont eux-mêmes les victimes, c'est les pédophiles, bisous bisous, on va leur faire des bisous et puis ils vont changer et c'est bon. Non, les victimes, c'est les enfants. Et la priorité, c'est que ces enfants arrêtent d'être violé. Voilà. Dans un deuxième temps, on verra. On verra ce qu'on peut faire, à qui, pourquoi. Voilà. Et le moindre des choses, c'est que au moins les victimes bénéficient du même suivi et des mêmes accompagnements que les accusés. Parce que des fois, on en est quasiment là. Voilà. Allez, honneur, force et courage, on lâche rien évidemment. Et puis, on va terminer ce podcast qui est long, mais j'espère qu'il est intéressant. Vous pouvez le voir en plusieurs fois, vous pouvez relire les articles, vous pouvez regarder les choses de votre côté. Donc, avec un article qui va s'intéresser à les. Donc là, on a parlé finalement que de l'étape 1, qui est les forces de l'ordre, les plaintes, police, gendarmerie, et donc le rapport entre les actes réels faits. Et l'étape 1 qui est la plainte, donc ça c'est les études de victimation, le taux de plainte, les plaintes, et donc l'étape 2 c'est le passage en justice. Donc c'est seulement maintenant qu'on arrive à ce niveau-là. Et là, on va donc s'intéresser à l'analyse des statistiques du ministère de la Justice sur des périodes où on en dispose. C'est pas très clair, c'est un peu erratique, c'est pas tout le temps, c'est un peu comme ils veulent. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec ces gens-là. Sur la période 2012-2016. Ne cherchez pas le problème, il est là. Et donc, effectivement, voyez ce tableau des conséquences pour l'agresseur d'un abus sexuel sur mineur en France. Je l'ai déjà commenté tout à l'heure, mais grosso modo, il n'y a que 0,2% des agresseurs sexuels sur enfants qui vont physiquement aller en prison au moins une journée. Wanted Pedo a extrait, analysé et synthétisé les maigres données statistiques publiques du ministère de la Justice concernant la pédocriminalité et les abus sexuels sur mineurs. L'analyse porte sur la période 2012-2016 et principalement sur les condamnations prononcées, le volume de ces condamnations, combien il y en avait, son nombre, la durée de ces condamnations, la nature de ces condamnations et le profil des condamnés. C'est ce qu'on a, j'ai envie de dire, c'est déjà pas mal, mais c'est pas énorme. Wanted Pedo, après avoir étudié donc les statistiques des services de police et de gendarmerie, ce qu'on fait depuis le début du podcast, la disparition de l'institut qui était en charge de leur production, les études de victimologie, donc je vous renvoie à un autre podcast qui s'est consacré à ça. On avait fait également un article de statistiques basé sur les articles de presse, donc je vous invite à regarder, qui c'était une étude interne, c'était une tentative de recherche sur nos propres données qu'on produit avec la revue de presse, qui s'appelait Impunité, 60% des pédophiles condamnés n'iront pas en prison. Aujourd'hui, on se penche donc sur les statistiques officielles du ministère de la Justice, enfin on devrait plutôt dire les miettes qui sont rendues publiques sur leur site. Donc les données. Déjà, on pourra remarquer que rien n'est détaillé géographiquement, contrairement au ministère de l'Intérieur. Vous n'avez rien par région, rien par département, encore moins que par commune, et qu'elle ne débute qu'en 2012. Car avant, je cite, les données ne sont pas comparables avec celles publiées précédemment, car il y a eu un recalcul de la nature d'infraction principale depuis. Donc, on enlève tout. Hein, c'est formidable, c'est comme dans Orwell, hein, c'est le ministère de la vérité. Et ben voilà, l'histoire judiciaire, des statistiques judiciaires commence en 2012. Ah ben c'est super, on est content. On se doute qu'il aurait été possible de faire aussi les recalculs sur les données d'archives pour au moins avoir des bases de comparaison, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, ils auraient pu faire les mêmes recalculs qu'ils ont fait sur les données d'après, sur les données d'avant, pour pouvoir donner une continuité. Mais non. C'est bien pratique pour remettre les compteurs à zéro et effacer purement et simplement l'histoire récente de l'activité de la justice française. Et c'est quand même étrange, car le numéro 164 de l'alerte mensuelle des services statistiques du ministère de la Justice, Infostat, est consacré aux condamnations pour violences sexuelles. Et comme par magie, sur la période 2007-2016. Bizarre, hein? Ah bah donc visiblement c'était possible. Je croyais que ces jeux de données n'étaient pas comparables. Ah mais là, ah bah bizarrement, eux ils ont réussi à le faire, vous voyez? Mais c'est pas public. Ce PDF est une superbe exemple de données sans données, notamment la figure 1, puisque malgré les multiplications des graphiques et des résultats rédigés, il est absolument inexploitable, mélangeant systématiquement les victimes majeures et mineures. Alors inexploitable pour notre sujet, évidemment. Nous faisons une petite étude de cas de la figure 1 en annexe de cet article. Ce qui est d'autant plus étrange que le distinguo majeur-mineur est par contre très bien fait en ce qui concerne les condamnés, afin de mettre en avant, et de manière répétée, que la moitié des agresseurs sont mineurs. Nous y reviendrons plus loin. Donc on différencie mineur et majeur quand ça nous arrange, on ne le fait pas quand ça ne nous arrange pas. Nous mettons au défi le lecteur de trouver le nombre global d'agressions sexuelles sur mineurs commises entre 2007 et 2016, et on ne parle même pas du détail par année. Donc là, vous voyez qu'on se plaignait du ministère de l'Intérieur, mais à la justice, c'est pire. De même, de nombreuses variables ne sont pas exprimées en fonction du type d'infraction, donc inexploitables, comme nous, comme par exemple la récidive. Les seules données sur la récidive, pourtant centrales pour comprendre si l'appareil d'État et notamment la justice est efficace, donc dans sa charge de faire baisser la criminalité, s'il y a beaucoup de récidives ou pas, c'est quand même un bon indice, sont données à l'échelle du pays et sur tous les crimes. Comme ça, on est sûr de rien savoir. Ce mélange ne veut donc pas dire grand-chose, mais pour info, le taux de récidive criminelle explose et est passé de 3%, 2,9% en 2005 à plus de 9% en 2014. Vous voyez comment ça marche bien, hein, de ne pas mettre les gens en prison, et bien du coup, on triple la récidive en l'espace de 10 ans. De plus, les rassemblements d'infractions ne correspondent pas aux index agrégés et relevés par les services de police et de gendarmerie. Ils sont pas foutus de se mettre d'accord pour que les infractions correspondent. On a pourtant une seule et même loi, non? Les index, ils sont bien basés sur la même loi, sur les mêmes infractions, sur les mêmes articles du code pénal. Non, non. C'est ballot, hein? Ah, dommage, hein? Nous avons donc dû rassembler nous-mêmes et agréger les typologies d'infractions pour avoir quelque chose de grossier mais de comparable. Arriver à trier ce qui pouvait l'être, ce qui pouvait être comparable. Ainsi, nous allons nous intéresser à trois infractions. Le meurtre sur mineur de 15 ans, le viol sur mineur de 15 ans, et un dernier assemblage un petit peu disparate entre atteinte sexuelle sur mineur sans circonstances aggravantes, atteinte ou agression sexuelle sur mineur avec circonstances aggravantes, et autres atteintes aux mœurs sur mineur. Donc on a fait l'ensemble des trois, puisque comme ils font des séparations complètement débiles, du coup on a mis les trois ensemble pour essayer de faire quelque chose. Ce dernier package correspond à peu près à l'index, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait, harcèlement et autres agressions sexuelles contre des mineurs, des services de police et de gendarmerie. En gros, ce sont les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles sur mineurs. Pour la maltraitance, c'est encore pire, on a carrément laissé tomber, c'était incompréhensible, enfin, immariable. Donc au niveau des volumes, ça correspond à peu près, donc voilà, on est parti là-dessus. Globalement, le jargon, la multiplicité des juridictions, des catégories d'infractions et de condamnations, des modes de comptage, font que ces jeux de données rendus publics, en plus d'être squelettiques, sont absolument incompréhensibles pour le citoyen lambda. Si nous on a galéré, alors ça fait des années qu'on est sur ce genre de choses, évidemment le but est que personne ne puisse s'y retrouver. Quand je dis citoyen lambda, je dis journaliste, parce que les journalistes sont souvent des gros incompétents sur les chiffres, ils ont une demi-journée pour faire l'article, vous leur donnez ça, ils sont incapables de faire le travail, ils n'ont pas le temps. Donc, ils vont appeler quelqu'un au ministère, lui dire « Vous pouvez me dire quelque chose sur... » Voilà comment on fait une com' bien léchée. Hein ? Le peu de documentation de vulgarisation ne porte pas sur la pédocriminalité. En tout cas, on n'a rien de trouvé. Hein ? Quand ils font des focus, c'est pas là-dessus. Mise en contexte des données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le lecteur doit bien avoir en tête que cette étude ne s'intéresse qu'aux actes de pédocriminalité qui aboutissent à une condamnation, ce qui est rarissime. C'est la quantification précise de ce rarissime et des conséquences réelles pour les pédocriminels qui est l'objet de cette analyse. En effet, donc seulement 8% des actes donnent lieu à une plainte. On entend par acte un enfant abusé et non pas le nombre d'abus. Donc si un enfant est violé une fois ou 100 fois, ça compte pareil. Les plaintes sont consignées par les services de police-gendarmerie, puis éventuellement instruites, ou pas, et transmises à la justice, donc ça c'est les classements sans suite, et transmises à la justice qui dans un certain nombre de cas prononce une condamnation. Ou pas, à du sursis ou pas. Ainsi, en réduisant la période d'analyse là où nous disposons à la fois de données de la part de la police et de la gendarmerie et de la justice, nous pouvons évaluer la proportion de plaintes qui donnent lieu à une condamnation. Donc si on recoupe sur les années où on a des chiffres, une condamnation ça peut être du sursis aussi, qui consiste concrètement à se faire tirer les oreilles par un juge dans un tribunal, mais en définitive, la vie du bédo ne change pas. Il garde son travail, personne n'est au courant, il ne passe même pas une heure en détention, aucun membre de son entourage, ni même peut-être sa femme, ses amis ou ses collègues ne sont au courant. Le sursis, c'est une blague. C'est attention si tu recommences. Oui, oui, oui. Donc sur la période 2012-2016, nous pouvons observer le tableau suivant. Donc vous voyez, on a effectivement des données sur les mêmes années avec des pourcentages. Donc on a viol police, donc c'est le nombre de viols sur mineurs de 15 ans constatés par les services de police, viol justice, le nombre de viols sur mineurs donnant lieu à une condamnation. D'accord ? Donc on voit qu'on a d'un côté entre 6000 et 7000, de l'autre côté 300-400 par an. D'accord ? 5% de condamnation. Les agressions, même topo. Alors effectivement, c'est plus facile de prouver une agression qu'un viol, d'où le fameux phénomène de correctionnalisation des viols. Et donc on est effectivement, pour les agressions, aux alentours, donc on est à 12 000, là sur la dernière année, 12 000 plaintes et un peu moins de 4 000 condamnations. Donc à peine 30%, voilà, 34% en moyenne sur toute la période. Et donc si on agrège viol et agression, on est à 24% de condamnations. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire qu'ils iront en prison. Hein. 5% pour les viols, 34% pour les agressions. Sachant qu'on est sur un rapport à peu près un tiers, deux tiers. Un tiers de viols, deux tiers d'agressions. Ok, ça va ? On peut dire que les chiffres d'une année sur l'autre se décalent largement, puisque le délai entre la constatation des actes et les éventuelles condamnations sont très importants. Donc effectivement, Là, c'est difficile à savoir, mais une plainte déposée en 2012 sera peut-être jugée en 2014 ou en 2016. Donc effectivement, il y a un décalage entre les statistiques et un décalage temporel, du fait des problèmes soi-disant de financement de la justice, mais qui sont faits à dessein. Pour dire on n'a pas le temps, il faut faire le moins d'affaires possible, on n'a pas pour que les juges pètent les plombs et soient trop fatigués, etc. Ils n'ont pas le temps de faire leur travail. À titre d'exemple, juste pour étayer ce que je viens de dire, le pourcentage du budget national en France est ridicule par rapport aux autres pays d'Europe. Hein? Donc ça, vous retrouverez vous-même vos sources. Mais ça, c'est dans la presse mainstream. À titre d'exemple, en 2017, pour les viols sur mineurs de 15 ans, ce délai était de plus de 8 ans. Donc en fait, c'est même pire que ce que je viens de dire. C'est-à-dire que les viols en 2012, en moyenne, ils vont être jugés en 2020. Donc on est même sur un truc complètement décalé. C'est un des délais de procédure les plus longs de toutes les infractions existantes. Il se situe en bonne place avec, devinez, la fraude fiscale et la comptabilité délictueuse. Ah bon, c'est des choses qui sont les plus difficiles à juger. Ah oui, d'accord. On appréciera où sont les priorités de la justice en France. D'accord? Donc le plus long à juger, c'est donc effectivement le viol par ascendant ou personne ayant autorité, 118 mois. Viol sur mineur de moins de 15 ans, 100 mois. Non mais on rêve. Gestion et comptabilité délictueuse, fraude à l'impôt, les autres viols, enfin, c'est incroyable. Ce sont ces affaires-là qui prennent le plus de temps à être jugées. Néanmoins, le volume et le nombre d'années pris en compte, donc le volume d'affaires et le nombre d'années pris en compte, donc là on est sur de 2012 à 2016 sur 5 années, la régularité des données d'une année sur l'autre, permettent d'assumer l'hypothèse que ces résultats expriment une réalité récurrente et stable plutôt qu'un effet dû à des soi-disant dysfonctionnements qui auraient eu lieu dans la deuxième moitié des années 2000. Pour vérifier cette hypothèse très probable, il faudrait avoir des données sur des plages de temps plus longues. Mais comme exprimé précédemment, on n'aura rien avant 2012 pour la justice et rien après 2016 pour la police-gendarmerie. Donc sur les 32 480 viols sur mineurs de 15 ans constatés entre 2012 et 2016, seulement 1639 ont fait l'objet d'une condamnation, soit à peine plus de 5%, 1 sur 20. Sur les 56 880 agressions ou atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans constatées sur 2012-2016, seulement 19 607 ont fait l'objet d'une condamnation, soit même pas 35%, 1 sur 3. Il faut savoir que la correctionnalisation des viols, donc une étude estimée en Seine-Saint-Denis, que 50% des viols étaient correctionnalisés, c'est-à-dire étaient jugés comme une agression sexuelle, alors que c'était vraiment des viols au départ, sur une étude qui a été menée entre 2013 et 2014 à Bobigny. Cela peut aussi expliquer ces pourcentages très faibles, puisqu'une partie des viols constatés sont requalifiés en agression sexuelle au niveau des tribunaux. Donc effectivement, s'il n'y a que 5%, c'est aussi parce qu'une partie est rebasculée de l'autre côté. Pour être clair, une partie non négligeable des 95% de viols ne donnant pas lieu à une condamnation. De même, les agressions sexuelles sur mineurs peuvent être requalifiées en atteinte sexuelle. Alors bon, dans notre cas, on englobait les deux en même temps. Donc ça n'a pas d'impact, mais effectivement, dans les tribunaux, ça a des impacts. Si on complète ce chiffre par les estimations consistantes dans des études de victimologie ou de victimation avec 8% des actes qui donnent lieu à une plainte, alors, on obtient 0,4% des viols sur mineurs et 2,8% des agressions et atteintes sexuelles qui donnent lieu à une condamnation. On verra plus loin la nature réelle de ces condamnations. On peut aussi rappeler que les peines de prison ferme donnent lieu à des réductions de peine de l'ordre de 20 à 25% du temps qu'on doit faire en prison ferme. Et depuis 2014, ces réductions de peine se font de manière automatique pour les récidivistes, comme pour les délinquants sexuels sur mineurs, qui acceptent un traitement. C'est-à-dire des entretiens avec un psychologue. Meurtre sur les mineurs de 15 ans. Par habitude, Wanted Pédo traite cette catégorie de crimes un peu à part, puisque non sexuelle, et puis les données sont toujours difficiles à traiter statistiquement du fait du faible nombre d'actes. En effet, ce sont majoritairement des femmes qui effectuent des infanticides, en dehors de toute considération sexuelle. Sur les 239 meurtres d'enfants constatés entre 2012 et 2015, donc pas des accidents, seulement 40 ont donné lieu à des condamnations, 17%. Il semblerait que ces chiffres étonnants s'expliquent par des artefacts de catégorie. Apparemment, 199 cas seraient donc comptabilisés ailleurs en assassinat ou violence ayant entraîné la mort, d'après un article de Libération. Il est par contre très clair que tout cela est extrêmement vague, flou et que personne ne semble réellement savoir et que l'organisme qui parle de cet article, l'ONRDP, vient d'être supprimé. Sur les 40 condamnations, 68 ont été le fait de femmes. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui n'a pas grand-chose à voir avec la pédocriminalité qui est principalement le fait d'hommes. De notre expérience, notamment la revue de presse, où on va quand même publier et relayer ces articles d'infanticide, on constate que les hommes qui tuent leurs enfants sont souvent dans une situation de vengeance envers la mère qui les a quittés. Et les meurtres d'enfants sont donc relativement rares et donnent lieu à des condamnations de plus de 3 ans de prison ferme dans plus de 75% des cas. Évidemment, donc voilà le cas classique, il se fait quitter par sa femme, le gars, ou juste avant, ben, il tue ses enfants, il tue sa femme, il se suicide. Voilà, ça, c'est le genre de fait divers que vous avez dû voir dans les journaux dans votre vie. Évidemment, aucun enfant assassiné lors de rituels sataniques n'est compté ici, puisque la police et la justice française n'ont pas connaissance de ce genre de choses sur le territoire français. Enfin, officiellement quoi ? Je vous renvoie donc au documentaire « Viol d'enfant, la fin du silence », notamment sur notre mur, et le bon documentaire « 1 sur 5 » de Carl Zéro, qui donne quelques extraits de ce documentaire qui a fait date. Viol sur mineur de 15 ans. Alors, entre 2012 et 2016, 1639 personnes ont été condamnées pour viol sur mineur de 15 ans, dont 99,4% sont des hommes. Donc c'est même pas à la marge, hein. Il y a 0,6%, c'est des femmes. Donc c'est une femme qui est condamnée pour viol sur mineur dans 6 cas sur 1000. Hein. C'est vraiment très 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 faible. 56% au moins de 18 ans, ce qui ne veut pas dire que 56% des actes sont le fait de mineurs, comme on a pu l'entendre suggérer abusivement dans la bouche de députés et autres sénateurs ou encore journalistes. Ce qui réduirait opportunément la question de la pédophilie à des problèmes d'éducation sexuelle entre collégiens ou entre frères et sœurs. Cela veut dire que dans la faible proportion, seulement 5% des actes qui donnent lieu à une condamnation, on a effectivement 56% de mineurs accusés. D'accord ? Mais c'est dans la très 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 faible proportion. Il est évident qu'un adulte accusé de viol sur mineur de 15 ans aura certainement anticipé le système judiciaire en faisant en sorte de ne pas être en présence de témoins. Et il le comprend, ce système judiciaire. Et il comprend ce que c'est qu'un crime, un délit, et de quelles sont les logiques, et qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. En assumant dès le départ de nier les faits, par exemple. En ayant les moyens financiers de se payer un avocat compétent. En assumant de mentir, s'il le faut, au juge, dans le contexte déstabilisant du tribunal. Avec tout le rituel et tout ça. Tout ce genre de choses qu'un mineur n'est bien souvent pas en capacité de faire. Pour vérifier cette hypothèse, il faudrait que les données de la police-gendarmerie présentent la proportion de mineurs accusés de viol sur mineur de 15 ans. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, on n'a jamais trouvé, mais on serait intéressé. Quand on regarde les durées des peines prononcées, on se rend compte que seulement 48% des condamnés pour viol sur mineur de 15 ans écopent d'une peine d'au moins 3 ans de prison ferme. Les moyennes des condamnations pour viol sur mineur de 15 ans se situent à 5 ans de prison ferme. Pour expliquer ces chiffres et parler de ce que nous pouvons constater depuis 6 ans dans l'immense majorité des cas dans les tribunaux français, les seules manières de faire condamner un pédo pour viol, c'est soit 1. Que l'accusé avoue, 2. Qu'il y ait d'autres témoins que l'enfant victime, des adultes de préférence, 3. Qu'il y ait plusieurs enfants victimes témoignant dans le même sens d'au moins 2 familles différentes, ou alors que le pédo ait déjà eu une condamnation pour des abus sexuels sur mineurs. Et en gros, si on n'a pas au moins une de ces conditions, de ces 4 conditions, il ne va pas en prison. Et ça, c'est ce qu'on constate. On veut bien des gens qui nous disent le contraire avec chiffres à l'appui, mais nous, c'est ce qu'on constate. Dans tous les autres cas, il est extrêmement difficile d'obtenir une condamnation en accord avec les peines prévues par la loi. Pour mémoire, on va refaire la partie code pénal du site bientôt, c'est 20 ans pour viol sur mineurs. Pour le dire clairement, la parole de l'enfant violé ne vaut presque rien aux yeux des juges. On sait que les peines de moins de 3 ans ferme font souvent l'objet d'aménagements de peine, systématiquement en dessous de 2 ans, bracelet électronique et suivi socio-judiciaire par exemple. Donc, si vous avez moins de 2 ans ferme, vous n'irez pas en prison physiquement. On sait aussi que dans la plupart des cas, les réductions de peine représentent entre 20 et 25% de la peine. Les statistiques pénitentiaires rendues publiques sont visiblement très succinctes et ne donnent pas de chiffres détaillés sur ce point. En tout cas, on n'en a pas trouvé. Ainsi, résumons-nous, sur 406 000 viols sur mineurs de 15 ans estimés entre 2012 et 2016, Seulement 665 violeurs, soit 0,19%, vont physiquement aller en prison pour une durée moyenne de 6 ans, alors que la peine théoriquement encourue est de 20 ans. Voyons pour les agressions et les atteintes sexuelles si c'est différent. Entre mai 2012 et 2016, 19 607 personnes ont été condamnées pour agression ou atteinte sexuelle sur mineurs de 15 ans, dont 98% sont des hommes. 20% ont moins de 18 ans, ce qui va dans le sens de l'hypothèse ci-dessus, où les agresseurs adultes arriveraient de manière bien plus efficace que les agresseurs mineurs à éviter une condamnation tout court, ou au moins à éviter une condamnation pour viol au profit d'une condamnation pour agression ou atteinte sexuelle. Vous voyez que le pourcentage de mineurs accusés est beaucoup plus faible pour les agressions que pour les viols. Franchement, il n'y a pas de raison, hein. Je vois pas pourquoi le mineur ferait plus de viols. Non, c'est parce que l'adulte, lui, il fait bien attention à ce qu'il fait. Il va peut-être pas laisser de traces, pas faire. Il sait comment on prouve un viol, et donc il sait comment ne pas laisser des traces pour. Vous voyez? Notre expérience au travers de la revue de presse quotidienne, depuis plus de 4 ans, va clairement dans ce sens. Je vous renvoie encore à l'article, ou à faire vos propres recherches en tapant des mots-clés dans le site. Quand on regarde les durées des peines prononcées, on se rend compte que seulement 7,3%, donc 1 sur 14, des condamnés pour agression sexuelle ou atteinte sur mineur de 15 ans, écopent d'une peine d'au moins 3 ans de prison ferme. Seulement 7% ont une peine d'au moins 3 ans de prison ferme. La moyenne de ces condamnations est de 7 mois de prison ferme. Autrement dit, ils n'iront pas en prison. Ainsi, sur 711 000 agressions ou atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, estimées entre 2012 et 2016, seulement 1396, donc à peine 0,19%, vont physiquement aller en prison pour une durée moyenne de 16 mois. La peine théoriquement encourue est pourtant de 10 ans depuis la réforme avec la loi SCAPA. Donc je ne sais pas si vous rendez 16 mois, on est sur donc 1 an et 4 mois, donc moins de 2 ans. Donc en fait, agression sexuelle sur mineurs, vous n'allez pas en prison. Vous comprenez l'intérêt et l'enjeu de correctionnaliser le viol, évidemment. Conclusion. Nous ne pouvons que constater la triste farce du système judiciaire français en ce qui concerne les violeurs d'enfants. Que cela soit au niveau de la chance qu'ils ont de se faire attraper, de se faire condamner, ou du temps réel qu'ils devront physiquement passer en prison. Pour quelqu'un qui connaît un peu le fonctionnement de l'administration française, être un pédocriminel en France en 2019 n'est clairement pas un jeu dangereux. Il faut vraiment ne pas être doué pour finir en prison. La menace carcérale est une blague que seuls les pédos naïfs et ignorants redoutent. La machine judiciaire qui théoriquement concrétise dans les faits tout le travail des législateurs, des policiers, des gendarmes et des travailleurs sociaux est une passoire. Dans le pire des cas, un pédophile notoire se verra sanctionné d'une petite tape sur l'oreille afin qu'il apprenne à ne pas se faire reprendre la fois d'après. Hein ? Comme ça, il sait comment il s'est fait attraper, il a rien, et comme ça, la prochaine fois, il fera plus gaffe. Nous, anti-pédos, vomissons ce système judiciaire dans son ensemble pour l'avoir expérimenté en accompagnant plus de 50 familles durant ces 6 dernières années dans les tribunaux et dans les services sociaux. Au premier rang duquel, les avocats, qui sont en première ligne pour saborder les dossiers, filtrer, mal conseiller, pour très cher et surtout, toujours lâcher les familles au pire moment et perdre tout courage à l'approche du moindre risque pour leur carrière et leur petite vie tranquille de comédien de pacotille. Même pour les soi-disant militants et autres guignols médiatiques, y compris sur les réseaux sociaux. Évidemment, on fait un grand hommage à l'infinitésimale proportion des avocats intègres qui essayent de faire quelque chose dans le système et qu'on salue. On en a quelques-uns à nos côtés et ils sont absolument d'accord avec ce que je viens de dire. Aux juges et aux procureurs, plein d'a priori, d'ignorance et d'incompétence, méconnaissance du dossier et des abus sexuels sur mineurs en général, dans le meilleur des cas, quand ce n'est pas le militantisme pédophile qui suinte par tous les ports de leurs discours ambigus et orientés. Venez les écouter dans les tribunaux, vous n'en reviendrez pas. Nous en sommes témoins, nous avons fait plusieurs comptes rendus de séances où on a entendu des choses incroyables. Aussi nous demandons à ce que toutes les audiences d'assises et de correctionnelles, grâce à Internet, soient retransmises, enregistrées, archivées et téléchargeables pour le grand public, retransmises en direct sur Internet. Tant qu'on y est, tout le monde va en prendre pour son grade, aux services sociaux de l'ASE, boursouflés de bien-pensance, mais rapidement usés et dépourvus de toute bienveillance, répétant sans cesse un discours creux, jargonné et bien souvent manipulateur, dénué de toute empathie réelle. Les familles évoquent souvent des robots avec un langage et des attitudes auxquelles ils doivent se conformer pour espérer obtenir gain de cause, ce qui arrive très rarement d'ailleurs, malgré le fait que dans certains cas ils essayent. Les gens qui ont choisi d'y travailler par vocation sont rapidement écœurés et quittent ce métier. Beaucoup y viennent par défaut. On accepte n'importe qui dans ces formations pour des raisons alimentaires sur des territoires sinistrés au niveau de l'emploi. C'est le niveau juste au-dessus de l'ADMR, l'aide à domicile. Je n'ai aucun mépris pour les gens qui sont à l'ADMR, mais il faut quand même être honnête, quand on vit en zone rurale, il n'y a pas 1000 emplois qui s'adressent à des gens qui n'ont pas beaucoup de formation. Et de l'ADMR et des EHPAD, si vous voulez. Hein. Si vous voulez éviter l'usine, il n'y a pas 1000 manières. Ils avalent et recrachent, sans aucune remise en question, des discours et des mécanismes pervers en enterrant au plus profond d'eux-mêmes des contradictions évidentes. Par exemple, je cite, le juge a... Non, je cite pas, c'est un exemple habituel qu'on rencontre. Le juge a décidé que le papa n'est pas un pédophile, puisqu'il a classé sans suite les dires de ses propres enfants qu'il accuse tous de viol. Les enfants vont mal, ils ne veulent pas avoir leur père, ne veulent pas être placés, veulent retourner vivre chez leur mère et sont malheureux. Mais moi, agent de l'ASE, ma mission que j'applique scrupuleusement est de faire en sorte que les liens avec les enfants et leurs deux parents se renouent de manière équitable, car nous, justice et services sociaux, savons ce qui est bon pour eux. Mieux qu'eux. Voilà ce genre d'exemple à peine caricatural, à peine. La vérité est qu'ils obéissent aux ordres pour conserver leur salaire, quitte à ruiner la vie de familles entières. Et ça les ronge de l'intérieur, au point de devenir complètement insensibilisés pour se protéger de leur propre noirceur, de leur propre renoncement, de l'absurdité du système dont ils sont concrètement les principaux acteurs, car les gens qui sont au guichet, c'est bien eux, et non pas le juge des enfants ou le JAF. Aux parents lâches et irresponsables, qui face à des décisions de justice extraordinairement inacceptables, se soumettent par crainte de représailles du système judiciaire à leur encontre. Certains vont même jusqu'à accepter des cadeaux et des places, donc du travail, en échange de leur silence, du fait de ne pas déposer plainte, de laisser tomber, d'oublier ce qui n'arrivera jamais, et d'essayer de passer à autre chose. Et qui, de ce fait, abandonnent sciemment leur progéniture à l'ASE, ou pire, se résignent à laisser leurs enfants placés chez les agresseurs pédophiles. Pour finir, recentrons-nous sur les chiffres qui sont l'objet de cet article, et le meilleur des arguments pour justifier notre écœurement et nourrir la soif du peuple pour un changement radical. Sur une année moyenne en France, environ 225 000 enfants auront à subir un abus sexuel. Et après un périple judiciaire douloureux de 8 années en moyenne, seulement 432 agresseurs, 0,19%, iront physiquement en prison pour une durée moyenne de 2 ans. Je vous laisse méditer sur cette dernière infographie, donc qui montre vraiment la proportion, voilà, qui permet de mieux se rendre compte. Petit bonus, donc, comme promis, histoire de détendre un peu l'ambiance, l'étude de cas sur la figure 1 du document Infostat numéro 164. Comme promise, voici un graphique qui est présente bien et qui est mis en première position dans le document et qui semble couvrir l'essentiel des données sur la période couverte 2007-2016. En observant ce tableau, on constate que les viols, les agressions sexuelles et les harcèlements sexuels, qui sont en théorie une catégorie d'agressions sexuelles selon les index de la police, mais pas pour la justice, ne distinguent pas les victimes mineures ou majeures. Seule la sous-catégorie aggravée qui ne nous renseigne donc en rien. En effet, les circonstances aggravantes peuvent être du fait que l'acte soit commis par un mineur de 15 ans, sur un mineur de 15 ans, mais pas que. Voir article 222-24 du Code pénal pour les viols et 222-28 pour les agressions sexuelles. Par exemple, en 2016, nous pouvons voir 352 condamnations pour viols sur mineurs dans les statistiques, et dans ce tableau 851 viols aggravés, englobant certainement ces 352. On peut y voir une catégorie atteinte sexuelle sur mineur, ce qui est logique, vu que l'atteinte sexuelle a été créée et est définie spécifiquement pour les victimes mineures. Et dans le corps du texte, page 2, colonne de gauche, deuxième paragraphe, vous pouvez télécharger le document, on lit « Les viols sur mineurs de moins de 15 ans, 4000 condamnations entre 2007 et 2016. » Est-ce que cet étrange chiffre rond de 4000 correspond aux 4044 atteintes sexuelles sur mineurs du tableau? On suppose que non. Pour les agressions sexuelles, on n'aura même pas la donnée brute et globale. Dans le même genre, on pourra rire ou pleurer de la figure 7 dans laquelle sont détaillées les peines des condamnés majeurs pour viol selon le type de viol. Sans surprise, la catégorie viol sur mineur de 15 ans n'existe pas. Bref, CQFD. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de l'écouter, peut-être en plusieurs fois vu sa longueur. Je vous conseille, comme il y a beaucoup de chiffres, de ne pas hésiter à aller retourner, relire les articles, regarder un petit peu pour comprendre tout ça. Et puis, voilà, honneur, force et courage. Toute l'équipe Pointed Pédo espère que ce genre de vérité arrivera enfin aux oreilles des citoyens, des médias et d'un peu tout le monde, que les choses puissent changer en France. Merci et au revoir à tous.